Regard chrétien sur le monde.
Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le socle indissociable de la foi chrétienne. Tout chrétien croit en effet à cette Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Dieu, le Père, le Fils, Jésus, mais le Saint-Esprit, qui est-il? Comment se manifeste-t-il? Marianne Vanier est professeure de théologie à l'Université de Metz, en France, et auteure de l'ouvrage « L'expérience du Saint-Esprit ».
L'Esprit Saint est à la fois Dieu, ou encore c'est vraiment la présence aimante, la tendresse de Dieu, cette lumière qui illumine tout homme et en même temps qui vient vers nous et qui nous amène vers Dieu. C'est une personne, c'est l'un des trois de la Trinité. Aujourd'hui, il se révèle dans la vie de chacun, c'est-à-dire... C'est l'Esprit Saint qui est l'amour au cœur de chacun, qui va fraterniser, qui va amener la paix. On pourrait reprendre un peu, je pense, à la fois les dons de l'Esprit Saint et les charismes. Les dons de l'Esprit Saint, bon, on n'en parle plus trop, mais dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de crainte de Dieu, de piété. Et sinon, les fruits de l'Esprit, c'est la charité, c'est la joie, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi, c'est-à-dire vraiment dans la vie quotidienne, tout ce qui humanise, tout ce qui fraternise.
Et comment expliquer que cet Esprit Saint se manifeste dans la Bible par un coup violent de vent, par aussi une sorte de feu qui se propage en langue, d'après ce qui est dit dans les Écritures, et qu'aujourd'hui il n'y a plus cette manifestation d'Esprit Saint, de cette façon-là en tout cas?
C'est sûr qu'il y a des moments où l'Esprit se manifeste, mais d'autres moments où il intervient différemment. Et là, je penserais peut-être à Saint-Irénée, qui voyait des modes différents d'expression de l'Esprit-Saint. Il disait que dans l'Ancien Testament, c'était le mode prophétique, les prophètes qui étaient remplis de l'Esprit. Ensuite, il dit, dans le Nouveau Testament, c'est le Fils qui amène à l'adoption filiale, vraiment à la vie en Dieu. Et après, c'est davantage selon la paternité que l'Esprit va préparer l'homme pour le Fils de Dieu. Le Fils va le conduire au Père et le Père lui donne l'incorruptibilité et la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a des moments différents.
Y a-t-il une différence de regard sur l'Esprit Saint en fonction des confessions chrétiennes, catholiques, protestantes et orthodoxes?
Ah oui, nettement. Ceux qui ont gardé, je dirais vraiment, la vie dans l'esprit, ce sont les orthodoxes. Toute la liturgie orthodoxe donne une très grande place à l'Esprit Saint. Du côté protestant, tout dépend des mouvances protestantes et il y a une redécouverte. Et sinon, du côté catholique, on a un peu l'Esprit Saint qui a été le grand inconnu, comme on dit, entre le Moyen-Âge et le début du XXe siècle. Et il a été redécouvert essentiellement au moment du Concile. Et dans les années 80, il y a tout un dynamisme qui a été refait, les travaux du Père Congar et d'autres. Mais dans la liturgie, bien évidemment, l'Esprit Saint a un rôle fondamental, en particulier l'invocation de l'Esprit Saint sur le pain et le vin et sur l'Assemblée qui devient le corps du Christ.
Marianne Vanier, auteure de l'ouvrage « L'expérience du Saint-Esprit » aux éditions du Cerf. Être à l'écoute de l'Esprit-Saint, chacun l'est à sa façon, mais certains croyants se disent particulièrement à l'écoute de l'Esprit-Saint dans leur vie quotidienne. Ce sont par exemple les communautés nouvelles dans l'Église catholique, ce sont aussi les protestants pentecôtistes. Témoignage d'Angelo Pace, il est membre de l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France, où il représente l'Union des Églises Évangéliques du Réveil, une communauté pentecôtiste.
On peut reconnaître que nous sommes limités dans ce qui est notre faculté intellectuelle et humaine, et que par contre, si on se met à l'écoute quotidiennement en méditant la parole ou bien en essayant de prendre un temps personnel, de dévotion personnelle avec Dieu, on peut effectivement recevoir des intuitions, des intentions qui nous font parfois agir au-delà de nos capacités et au-delà de nos aptitudes.
Recevoir des intuitions, c'est de la voyance ?
Ah non, c'est tout simplement peut-être être dirigé par l'esprit, c'est-à-dire avoir une pensée pour quelqu'un qui est en difficulté, à qui on a envie d'écrire un petit mot pour l'encourager. Un chrétien charismatique, c'est quelqu'un qui s'appuie d'abord sur ce que Dieu peut faire, bien plus que ce que lui peut faire.
Il n'y a pas un danger d'exploiter l'extraordinaire ?
Si on perd conscience de ses limites, oui. Le travail de l'Esprit-Saint, c'est aussi de nous révéler nos propres limites et bien sûr nos manquements. Donc c'est le meilleur vaccin qu'on puisse trouver à la toute-puissance qui malheureusement sévit, même on va dire, dans les milieux chrétiens, quelle que soit la dénomination. Je crois que c'est un constat qui est un peu général, puisque nous sommes des êtres humains qui avons en commun cet écueil-là. Mais néanmoins, on est ramené à ce qui est le cœur de la vie chrétienne, c'est-à-dire à l'exemple, et soit aux paroles, soit aux actes qui ont été laissés pour modèle de la part de Jésus-Christ.
Angelo Pace, en tant que membre d'une église protestante et plus particulièrement pentecôtiste, diriez-vous que vous êtes, vous, plus attentif à l'Esprit-Saint que les autres chrétiens ?
Ça fait bien longtemps que j'ai dû me rendre à l'évidence que personne ne peut revendiquer le monopole de l'Esprit-Saint et on doit accepter avec modestie d'être simplement un témoin ou, comment dire, un canal pour laisser Dieu agir comme il le veut, quand il le veut, pour des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Ce qui n'est pas la même chose que vouloir soi-même accomplir des exploits pour Dieu.
Vous le savez, tous les chrétiens ne sont pas particulièrement attentifs à cet Esprit-Saint et ce qu'ils peuvent ressentir de cet Esprit-Saint. Vous, personnellement, qu'est-ce que cela vous procure d'avoir cette écoute plus attentive, peut-être, vis-à-vis de l'Esprit-Saint ?
Alors, c'est vrai que souvent, on nous considère, ne serait-ce que dans le monde protestant, comme étant une expression émotionnelle du protestantisme, puisque souvent le charismatique ou le pentecôtiste est catalogué avec une emphase qui est mise sur l'expérience, les émotions, une certaine vitalité dans la liturgie. Bon, ce sont des choses qui, évidemment, sont une réalité. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus généraliser trop, parce que je crois que ce qui fait d'abord la force aujourd'hui d'un chrétien pentecôtiste ou charismatique, c'est d'accepter d'être au quotidien ce témoin et ce disciple dont parle l'Évangile, et puis aussi d'être capable de l'exprimer dans une humanité et d'incarner au mieux ce message. Puisque aujourd'hui, on n'est peut-être pas très nombreux à accepter de suivre ce chemin-là, mais je crois encore qu'il est possible d'être contagieux. Et si chaque chrétien acceptait d'être ce vase qui se laisse remplir d'une manière renouvelée et sans artifice, on verrait davantage le Christ qui fait vivre son Église et moins l'institution.
Témoignage d'Angelo Pace, membre de l'Union des Églises évangéliques du Réveil, une église protestante pentecôtiste. Cet appel à devenir des serviteurs de l'Esprit-Saint a été lancé également par le pape Jean-Paul II dans son encyclique de mai 1986 sur l'Esprit-Saint dans la vie de l'Église et du monde. Dans la conclusion, il écrivait « L'Esprit-Saint ne cesse d'être le gardien de l'espérance dans le cœur de l'homme. Il apporte en effet repos et réconfort au milieu des fatigues, au milieu des préoccupations, des luttes et des dangers de toute époque. Il apporte enfin la consolation lorsque le cœur humain pleure et connaît la tentation du désespoir. »